Alors continuons. L'Empire se convertit au christianisme avec le concile de
Constantin. Il y a l'édit de Milan hein, en 316 et puis le concile de Nicée 325.
Alors, à ce moment-là, c'est son sens complètement, et Adrien interroge, excusez-moi, je suis fatigué, Constantin interroge, et au concile de Nicée, l'évêque de Jérusalem était présent. Marqué dans la tradition chrétienne, Alexandrie, Antioche était devenue plus importante déjà que Jérusalem, c'est curieux. Mais l'évêque de Jérusalem était là, et l'évêque de Jérusalem se fait témoin d'une tradition. C'est là, il dit. Et un évêque n'ignore pas l'évangile. Marqué, il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église sombres. Et puis un évêque, il savait que c'était en dehors des murs, et maintenant c'était au plein milieu. Alors pour qu'il dise c'est là, contre toutes les apparences, et un évêque à cette époque-là n'était pas archéologue, il fallait vraiment qu'il soit porteur d'une tradition. Et de fait, il y a une continuité étonnante depuis les origines. Les évêques de Césarée donnent la liste des évêques. J'ai dit simplement hier qu'ils avaient dénoncé vite avant la révolte de Bar Corba, ensuite ils ont des noms grecs. Alors, sur la base de ce témoignage, Constantin envoie ses architectes faire des travaux gigantesques à l'emplacement où Adrien avait fait son forum. Ils ont enlevé toute la terre qu'Adrien avait apportée. Alors, une légende, si vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est qu'on a retrouvé la Sainte Croix dans les fossés de la ville. Alors ça, les reliques de la Sainte Croix, c'est une tradition vénérable, enfin, c'est pas un dogme. Si tous les restes de la Sainte Croix qu'on a retrouvé étaient mis ensemble, proprement entier, ne suffirait pas à les contenir. Bon, après ça, il a aménagé le terrain. Il a évidé la colline où était la nécropole pour isoler le tombeau de Jésus. Et puis sur l'ensemble aménagé, il a construit d'abord un atrium d'entrée qui donnait depuis Cardo Maximus. Ensuite, une immense basilique qu'on appelait le Martyrium, qui était construite de telle sorte que le fossé de la ville servait de crypte. C'est là que Sainte-Hélène a retrouvé la vraie croix. Martyrium, une église à 5 nefs, orientée vers l'ouest, comme j'ai dit tout à l'heure. Voyez. Contrairement à une tradition qui, à une coutume qui déjà avait force de loi, les églises étaient tournées vers l'est, dans une attitude d'attente. Là. On expliquera cette attente entre l'exil et le retour, comme Jérusalem tournée vers le mont des Oliviers, la gloire de Dieu qui s'en va et puis qui revient. Bon. Mais là, contrairement à la tradition, parce que la victoire du Christ sur la mort au matin de Pâques, c'est à l'ouest. Ensuite, un autre atrium, et dans un coin, le Golgotha. C'était pas ça qui était vénéré d'abord. C'est la présentation réaliste de la croix, on a commencé à en faire que très tardivement. Bah, c'était un supplice atroce, ça pouvait durer très longtemps. Rares étaient les gens qui n'avaient pas été témoins un jour ou l'autre de ces atroces supplices. Et alors, le simple fait de l'évoquer, c'était la chair de poule. Et c'est pas la croix qu'on vénérait. À l'époque byzantine, c'était un signe de victoire, inox signo vinces. Et alors, tout le bâtiment est axé sur l'endroit où le Christ est sorti vainqueur de la mort. Alors, il a construit là une rotonde qui devait à cette époque-là respirer. La lumière devait y entrer à flot. La mosquée d'Omar peut me donner une idée. Maintenant, ça s'est rapatillé, ça s'est rétréci. Alors, j'emporte toujours tout un carnet avec des schémas, tout ça, pour expliquer aux gens sur place. Il y a tout un ensemble là, oui, je n'entre pas dans le détail, simplement les grandes dates, parce que ces grandes dates de l'histoire du Saint-Sépulcre, c'est les grandes dates de la Jérusalem chrétienne. Et alors on les retrouve presque dans tous les lieux saints que vous aurez l'occasion de visiter. La littérature ne manque pas là-dessus, les guides sont excellents, vous en prenez un et puis vous visitez les lieux saints. Alors, les grandes dates à retenir. Une première grande date à retenir, c'est 614. Qu'est-ce qui s'est passé en 614? Il y a eu une invasion des Perses, un certain Cosroès là, et alors tous les monastères du désert de Juda là, portent des traces des massacres qui ont eu lieu à cette époque-là. Enfin, les Perses ont massacrés, ils ont pillé, mais ils n'avaient pas de bulldozer, ils n'ont pas détruit. Alors, ça n'était qu'un intermède. Mais il y a quelque chose à retenir là. On dit que Cosroès avait emporté la Sainte Croix, qui était vénérée à Jérusalem. Et alors, après ça, il y a, je crois qu'il s'appelait Honorius, l'empereur byzantin, qui a fait une contre-offensive, qui a vaincu Cosroès, et dans les conditions du traité de paix, il fallait que la Sainte Croix revienne. Alors, il y a une légende ici qui mérite d'être racontée, souvent la travers les légendes, on voit la réalité encore mieux. On dit que Honorius a revêtu sa plus belle tiare, ses plus beaux atours, son beau manteau en or, etc., pour aller à la rencontre de la Sainte Croix. Il est arrivé à la rencontre de la Sainte Croix quand il a trouvé impossible de la soulever. Alors il a compris. Il a enlevé tout ça. Il s'est vêtu normalement, même comme un pauvre, et puis c'est comme ça qu'il a réintroduit la croix à Jérusalem. Il y a des légendes comme ça qui méritent d'être racontées. Alors, le bâtiment a été rafistolé. Il n'avait pas subi de destruction fondamentale par un moine d'un monastère qu'on aperçoit à l'horizon quand on se promène du côté de Bethléem, d'Erdosie, Théodosius, qui est devenu patriarche de Jérusalem. Et alors, est arrivé l'islam ici en 638. L'islam, c'est un des phénomènes les plus formidables de l'histoire du monde. Il y a un belge, un historien qui s'appelle Pirène, qui a montré ça. Il suffit de comparer deux dates. 622, l'Égypte, au fond de la péninsule arabique. Et la bataille du Poitiers, là, c'est quelle date?
732.
En 110 ans, la Mare Nostrum, le petit lac qui était au centre de l'Empire romain,
la Méditerranée,
devient la frontière entre deux mondes complètement étrangers. Étrangers. Il a fallu des siècles pour que les communications se refont. Et quand on lui dit histoire juive, c'est passionnant parce qu'ils étaient des deux côtés. Ils étaient les seuls à faire. Et si le Talmud de Babylone s'est répandu comme ça, en suivant l'islam jusqu'en Espagne, et puis il y a toute une branche d'histoire ici passionnante à raconter. Enfin, l'islam arrive à Jérusalem en 638. Alors là, il y a aussi de belles légendes, mais je crois qu'à travers les légendes, on retrouve la réalité. On nous dit que le patriarche de Jérusalem, comment est-ce qu'il s'appelait, Josophron, bon, je ne suis pas sûr, il m'a même ce bon lieu, a accueilli le calife Omar et lui a dit, il a fait visiter le monument, et est arrivé là-dessus lors de la prière musulmane, et le patriarche aurait dit au calife Omar, mais fais donc ta prière ici, il n'y a pas de problème, et le calife Omar très élégamment a dit non, parce que ça va devenir un lieu saint musulman. Il est sorti et il a fait sa prière en dehors du bâtiment, là où était la première mosquée d'Omar, pas celle qui était attribuée à Omar, maintenant elle n'était pas encore construite. Alors il y a une période de coexistence pacifique qui a duré assez longtemps, de 638 jusqu'à 1009. Il n'y a pas d'événement marquant, une coexistence pacifique. En 1009, alors, l'islam était déjà assez morcelé, les Omeyyades étaient partis en Espagne, les Abbasides qui régnaient à Bagdad, etc., enfin, toute la succession. Là. Et à ce moment-là, Jérusalem était sous la mouvance d'un musulman qui habitait au Caire, Hakim. Alors là, il y a eu la plus grande catastrophe du Saint-Sépulcre. Saint-Sépulcre ne s'est jamais remis. Il a complètement détruit, il a voulu tout détruire du moins, il a voulu complètement tout détruire. On a pensé que c'était par pur fanatisme, maintenant on connaît un peu mieux l'histoire, et il semble qu'il a interdit aux chrétiens une cérémonie qu'il pratiquait dans les fêtes de Pâques, et qui continue toujours d'ailleurs. Enfin, si vous voulez que quelque chose continue, interdisez-le. Bon, c'est la transmission du feu. Enfin, il y a le feu qui descendait du ciel, par un truc des moines, ça arrivait juste pile quand il fallait, puis tout le monde allumait sa torche comme ça. Dans la veillée pascale, d'ailleurs, c'est resté encore dans la veillée pascale, il y a un rite comme ça. Bon. Alors il a dit, plus de tout ça, d'abord c'est de la superstition, et puis ensuite c'est dangereux. Un incendie à Jérusalem, la pompe est une invention moderne, et puis il n'y a pas d'eau, et pas toujours, même quand la saison des pluies a été abondante, c'est toujours dangereux. Alors il a interdit aux chrétiens cette cérémonie. Les chrétiens auraient passé outre, et alors peut-être qu'ils cherchaient que l'occasion. Mais en tout cas, il n'y a pas été de main morte, il a complètement détruit. Du martyrium, de la grande église, il ne reste rien. Ensuite, alors, pour ce qui est du Saint-Sépulcre, il a commencé par le toit, bien sûr, les débris sont accumulés, les débris ont monté, et puis à un moment, il dit « Halas, ça suffira ». Et le père Poinon, que j'ai bien connu ici à Jérusalem, qui était architecte représentant des latins au Saint-Sépulcre, disait que sur 10 mètres de hauteur, le mur d'enceinte de la rotonde est toujours le mur de l'époque constantinienne. Alors, il s'est trouvé par la suite que le musulman qui dominait à Jérusalem, je ne me rappelle plus lequel, c'était un Seljoukide, en fait, il y a toujours des rivalités. Il fâchait vraiment les fils, ça interrompait le développement, et puis vous irez voir vous-même. La mémoire faiblit de plus en plus là-dessus. La mémoire est en fonction de l'intérêt. Bref, il a eu besoin, pour faire face à son rival, le musulman du coin, de faire alliance avec l'empereur byzantin. L'empereur byzantin, à cette époque-là, s'appelait Constantin Monomaque. Alors, il a dit, oui, à condition que que je reconstruise mon lieu saint. Et alors il a rafistolé ce qui restait du Saint-Sépulcre. La rotonde a été restaurée, tant bien que mal. Comme il n'y avait plus d'église pour le culte paroissial, on a transformé cette rotonde en église pour le culte paroissial par la jonction d'une abside, la tournée vers l'est cette fois-là. Et puis alors dans le cloître, là, on a créé des chapelles où on vénérait les saints qu'on vénérait à l'époque, Saint Abraham, Saint Longin, Saint Melchisédek, enfin des saints particulièrement vénérés à cette époque-là. Et c'est intéressant de connaître cette reconstitution de Constantin de Lomac, parce que c'est ça que les croisés vont trouver. Et ça se passe en 1009. La destruction de Rakhine et puis la reconstruction. Les croisés arrivent en 1099. Et alors, on s'en souvient de l'arrivée des croisés à Jérusalem quand on lit les chroniques musulmanes et les chroniques juives. C'était des barbares, ces gens-là. C'était affreux. Un bain de sang. Bon. En tout cas, c'était des gens pieux. Ils se sont mis quand même à la construction. C'est pas, souvent, ça coexiste. Ils se sont mis à la construction du sanctuaire. Ça a duré 50 ans. Alors, ils ont lancé à construire le martyr. Ils ont fait après, ils ont fait un cloître dont on voit encore quelques vestiges. Simplement, dans l'atrium intermédiaire, hein, d'abord ils ont enlevé l'abside là, que les Constantin Monomaque avaient faite hein, pour ouvrir, et puis alors là ils ont construit une basilique romano-gothique. Comme je tiens ça du Père Quanon, et ça comporte en général trois éléments. Il y a une abside qui est tournée vers l'est, il y a un déambulatoire. Il y a ce que ça veut dire, on déambule. Je trouve que ça vaut toutes les poses de recueillement qu'on trouve dans les méthodes de méditation moderne, déambuler dans un cloître, dans un déambulatoire. Et puis alors, l'église a toujours plus ou moins la forme d'une croix, il y a un transept, et puis alors il y a une nef. Alors ici, vous avez l'abside, vous avez le déambulatoire, vous avez le transept, c'est par là qu'on entre maintenant, qui est le portail principal, et il n'y a pas de nef, c'est la rotonde elle-même, qu'ils ont eu à peine besoin de retoucher, qui devient la nef de cet ensemble. Vous voyez ? Et alors, il paraît, je ne sais pas si vous avez vu Saint-Sernin à Toulouse, ou bien Saint-Martial à Limoges, il paraît que c'est un type des canons artistiques qu'on trouve, qui sont courants à cette époque-là. Et paraît-il, des architectes bénévoles faisaient des églises comme ça sur la route du plus célèbre des pèlerinages de cette époque-là à Compostelle. Je n'étais pas là, je répète simplement ce que j'ai entendu dire. Alors, après ça, il n'y a pas eu de modifications sensationnelles. Il y a des questions de statu quo. Alors là, j'avoue que j'ai jamais réussi à m'intéresser à ça vraiment. On se partage, soit après toutes les querelles qu'il y a, soit d'après le lieu, je prie là, tu pries là, ou bien d'après le temps. Enfin, je fais mes dévotions à tel moment, ma procession, et puis alors toi tu l'as fait avant, toi tu l'as fait après, tout ça minutieusement réglé. Ok, c'est mieux que rien, hein. On se bagarre pas. Toutes les énergies sont mobilisées pour pas que ça bouge, mais un complexe en psychologie, ça peut être une base de départ pour une évolution intérieure. Alors en attendant que ça soit mieux, mais actuellement si vous y allez, c'est un peu navrant. Hein. Moi j'ai connu le Saint-Sépulcre au moment où il n'y avait que pas des balustrades, mais des contreplaqués, enfin des séparations. Après ça, on a vu pousser un mur autour de le Catholicon, qui est l'endroit où les Grecs veulent être chez eux. Et alors j'ai vu récemment, encore une fois, le mur qui disparaissait, mais c'était pas vraiment du beau. Vous savez, l'écuménisme, ça progresse, mais c'est pas grand T égale petit T plus 1. Hein. Il y a des... ça avance, ça recule, ça... Et puis j'ai l'impression qu'on se battra pour des bâtiments, hein, alors qu'on célébrera l'Eucharistie ensemble. C'est terrible de voir comment on garde, hein, on garde. Là, je suis bien que l'instinct de... le territoire, c'est quelque chose qui s'enracine quand on étudie un peu l'écologie, les mœurs, mais enfin quand même, enfin, le territoire, c'est comment se démarque le territoire. Bon, mais là, marquez, c'est mieux maintenant, hein, c'est quand même mieux.
Il y a un partage dans l'espace et le temps aussi.
Ben c'est ça, voilà, c'est ça.
À certaines heures.
Vous allez voir ça sur place. Alors ça crie très fort, comme ça qu'on affirme sa présence. Et pourquoi est-ce qu'on fait son tour? Ben pour pouvoir continuer à le faire, parce que sans ça, la prescription jouerait. Alors, pour Pâques, justement, si vous voulez, alors, mais je crois que ça va bouger. Moi, il y a un nouveau patriarche, je suis vieux. Hein. Quand j'étais au collège, j'avais la liturgie, tout finissait le samedi saint, au matin. Et ben c'est encore comme ça au Saint-Sépulcre. Parce qu'on ne peut pas bouger, il faut que tout le monde soit d'accord.
Il n'y a pas de veillée pascale au Saint-Sépulcre.
Écoutez, moi, je crois que ça va changer. En tout cas, c'est un fait que si vous cherchez un endroit dans le monde, monde où ça n'a pas encore vraiment bougé, ben il faut aller là. Parce que le statu quo, ça ne peut pas bouger. Donc ben, si vous arrivez à surmonter tout cela, alors là, allez un jour. Et comme cette année, le calendrier orthodoxe, le calendrier juif et le calendrier chrétien coïncident pour la fête de Pâques. Alors à ce moment-là, il faut aller, hein, se mêler à la foule et puis voir comment. Il y a une espèce de pulsation du monde, on est au cœur. Ils arrivent tous là, et puis ils s'en vont. Mais vous vous asseyez là dans un coin, vous voyez des gens qui viennent du monde entier. Et en quoi j'attirerais tout à moi? C'est vraiment une expérience à faire. Alors chacun est dans son coin, et puis les pèlerins cherchent un coin pour lire quand même le récit de la Passion. Et puis, il y a, à côté de ça, il y a des guides qui racontent des histoires. Ce serait enregistré de ce qu'on peut raconter. Encore une fois, vous voyez, moi, je vais au Saint-Sépulcre, et puis tout ça, ne retenez que le positif, c'est quand même l'endroit où Jésus est sorti vainqueur de la mort. Au matin de Pâques, et pour nous, c'est le fondement de notre foi. Si nous marchons comme il a marché, si nous passons par où il est passé, nous parviendrons là où il est. Il y a une tête de pont par-delà la mort.